Je voudrais vous présenter un très vieil ouvrage, un poème de quelques centaines de vers. Il est à peu près inconnu de tout le monde et je l'ai choisi parce qu'il est très émouvant et très attrayant. Premièrement, parce qu'il a à peu près 37 siècles, donc il a traversé 3 millénaires et 700 ans pour venir jusqu'à nous. C'est toujours émouvant, un texte ancien comme ça. Ensuite, il émane d'une civilisation très importante, qui a été très grande en son temps, la civilisation mésopotamienne, qui est née, si vous voulez, au 4e millénaire avant notre ère, et qui est aux origines même de la nôtre. Ensuite, il contient les premières, les plus anciennes réflexions approfondies et systématisées qu'un homme ait fait de la façon dont il voyait le sens général de l'univers, la raison d'être et le dessein général des hommes. Je vous montrerai à la fin aussi que ce livre est à la base de notre propre vision du monde, et vous verrez comment. Alors, les anciens qui l'avaient écrit, dont je vais vous parler après, l'appelaient « Lorsque les dieux faisaient l'homme », ce qui est son premier vers, il commence par là. Faire l'homme, ça ne veut pas dire créer l'homme, en l'occurrence, c'est-à-dire jouer le rôle de l'homme. Nous l'appelons plus brièvement par le nom de son héros, qui était en acadien Atraracis, ce qui veut dire en français le super sage. Je parle de lui comme le super sage. Voilà. Alors, il a été écrit donc en Mésopotamie, probablement à Babylone, vers 1700 avant notre ère. Nous n'avons pas la date exacte, mais nous avons quand même la plus vieille copie, à peu près contemporaine, de sa composition. Alors, je vous fais d'abord, pour mieux le comprendre, un rapide cadre de la civilisation dans laquelle il est né, la Mésopotamie, c'est-à-dire d'un pays dont le territoire se recouvrait à peu près avec l'Irak contemporain. Et c'est un pays qui géologiquement n'est pas ancien et qui a été très longtemps immergé sous le lit d'un énorme fleuve. C'est seulement vers le 6e, 5e millénaire qu'il s'est asséché, que la configuration générale géographique du pays a pris sa forme avec les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, et que le pays a été peuplé vraisemblablement par des voisins qui descendaient des montagnes d'alentour. Voilà. Alors donc, dans ce pays, c'est un pays de limon, d'argile et de limon, et par conséquent un milieu tout à fait idéal pour la culture en grand et l'élevage, un pays gras, un pays riche, et qui pouvait être destiné, qu'il a été, n'est-ce pas, à une population intelligente, qui, profitant bien de son terrain et travailleuse, a donc très vite émergé à l'étiage d'un pays important politiquement, militairement, financièrement, économiquement, riche. Alors, l'inconvénient de ce pays, c'est qu'il n'avait ni pierre, ni minéraux, ni bois. Alors ça a obligé l'intérêt de ce pays, depuis la préhistoire, à aller chercher ailleurs où se trouvaient ces matériaux, donc à fréquenter leurs voisins et à faire avec eux des échanges. Et ce qui fait que la Mésopotamie a été à la fois, n'est-ce pas, une sorte de vase dans lequel sont fondues plusieurs civilisations, assumées par elles, et en même temps un phare qui a éclairé tout le Proche-Orient. Alors, les choses ont commencé probablement à la fin du 5e millénaire. Vous savez, l'histoire ne se fait qu'avec des documents. Les documents doivent être écrits. Alors, tant qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de documents. Or, l'écriture a commencé, et précisément, ça a été la première grande invention de ces gens-là, vers 3200 avant notre ère. Ils ont inventé à ce moment-là une écriture qui, au début, était assez rudimentaire et qui, peu à peu, s'est perfectionnée jusqu'à être capable de transcrire tout ce que l'homme pensait, écrivait, voulait dire. Cette écriture, nous l'appelons cunéiforme, parce que dans sa forme classique, n'est-ce pas, les éléments qui la composent sont en forme de clous ou de coins. Alors, la civilisation de ce pays est née, semble-t-il, d'un mélange de populations. Populations au pluriel, il y en avait plusieurs naturellement. Mais les deux principales semblent avoir été, d'une part, ce que nous appelons les Sumériens, et d'autre part, ceux que nous appelons par convention les Akkadiens, et qui sont des Sémites. Alors les Sumériens, eux, on ne sait pas d'où ils sont venus. Il est probable qu'ils sont venus de l'Est, c'est-à-dire du côté iranien, et probablement de la mer. Parce que nous avons un mythe, les mythes tout en étant assez légendaire par certains côtés, garde souvent souvenir de très réels et importants. Il y a un mythe important qu'on appelle les sept sages. Il suppose que le pays était occupé par des sauvages et que des gens venus de la mer, mystérieux un petit peu, la mer c'est le golfe Persique, sont venus les acculturer et leur apprendre tout. Nous pensons que ce sont vraisemblablement les Sumériens. Dans le pays, ils ont trouvé des nomades, probablement au début encore frustes, que nous appelons par convention encore une fois les Acadiens, mais qui sont des Sémites, et qui eux venaient, nous savons d'où, le centre des Sémites, c'est le nord du grand désert syro-arabe, vers le nord-ouest. Donc ils venaient de Syrie, et ils n'avaient eu qu'à descendre l'Euphrate, tentés vraisemblablement par la fertilité et la fécondité du pays, et qui voulaient venir s'y installer et s'y sédentariser, et qui ont, avec les Sumériens, formé donc cette civilisation mésopotamienne qui commence là, et qui a duré 3000 ans à peu près, jusqu'au début de notre ère, où elle est morte. Il faut noter encore une chose, c'est que si au début, les Sumériens, qui semblent avoir été beaucoup plus intelligents, beaucoup plus inventifs, beaucoup plus riches culturellement parlant, ont marqué le pays d'une marque très très forte, ce règne des Sumériens a été interrompu au troisième millénaire, parce que les Sumériens semblent être venus de la mer et de l'Est, enfin le long du golfe Persique, en coupant les ponts avec l'endroit d'où ils venaient, et que nous ignorons naturellement. Et ils n'ont jamais reçu, semble-t-il, de sang frais par des apports de population. Tandis que les Sémites, eux, qui venaient donc du sommet du désert syro-arabe, n'ont pas cessé pendant toute l'histoire de recevoir des congénères qui descendaient l'Euphrate, qui venaient comme les premiers s'installer dans ce pays de manière à y vivre. Alors, au troisième millénaire à peu près, quand nous n'en savons rien, mais on voit les choses de haut, on se rend compte que les Sémites, de plus en plus nombreux, ont peu à peu phagocyté les Sumériens, qui ont disparu, et la grande empreinte sumérienne que les Sumériens avaient laissée est restée naturellement, mais elle a été remplacée par une marque de plus en plus importante des Sémites, ce qui change pas mal de choses. À la fin du troisième millénaire, ces Sémites ont même été renforcés par une nouvelle vague, pas de gens venus plus ou moins en masse s'installer dans le pays, et qui venaient toujours du nord du désert syro-arabe, et que nous appelons les Amourites. Et ces gens-là semblent avoir donné au pays comme du sang nouveau, comme un coup de fouet. Le tout aboutit au début du second millénaire à une rénovation, en quelque sorte, politique et culturelle, n'est-ce pas ? Politique, on le voit au fait que, pour la première fois à ce moment-là, un roi qui s'appelle Amourabi, qui était amourite lui-même, a créé un royaume autour de Babylone. Et on le voit aussi, donc non seulement à cette création politique nouvelle et forte, mais au fait que de cette époque datent quelques chefs-d'œuvre de la littérature, ce qui suppose un progrès pas seulement des lettres, mais aussi de la pensée. Je vous cite simplement un autre chef-d'œuvre de la même époque, c'est l'épopée d'Ilgamesh. L'autre, le premier chef-d'œuvre, c'est celui que j'ai choisi pour vous en parler, c'est-à-dire le super-sage, comme je l'appelle. Ce chef-d'œuvre fait partie des nombreuses œuvres écrites dans ce pays. On écrivait énormément dans ce pays. Ils ont inventé l'écriture, ils en ont profité largement. Ce n'est pas que tout le monde écrivait. L'écriture était extrêmement difficile. Elle comprenait à peu près 400 ou 500 caractères, au lieu d'une vingtaine comme nous, et dont chacun avait plusieurs valeurs. On ne tranchait qu'en fonction du contexte. Alors l'écriture était donc réservée à des spécialistes, à des professionnels, à des scribes. Et ces scribes accomplissaient les devoirs de tout gribouilleur de papier, pour les contrats, etc. Mais en même temps, les plus doués d'entre eux écrivaient des œuvres. Et l'un d'entre eux a donc écrit le super-sage. Et le super-sage fait partie de toute une tradition littéraire dont les premiers témoignages sont de 2600 avant notre ère. Nous avons connu cette écriture. Le pays est mort, la civilisation est morte autour de notre ère. Elle est tombée aussitôt ou très rapidement dans un oubli total. C'est seulement au début du XIXe siècle, que ma curiosité excitée vers ce pays, parce que les voyageurs en rapportaient des briques écrites, etc., on s'est mis en tête d'en faire le déchiffrement. C'est toute une histoire assez admirable, parce qu'on n'avait rien. Champollion, lui, il avait ce qu'on appelle un bilingue, c'est-à-dire il avait le texte égyptien qui voulait déchiffrer, et en dessus un texte grec. Alors, il savait donc ce qu'il trouverait dans le texte égyptien. Et il avait notamment des noms propres de pharaons qu'il pensait trouver, qu'il a trouvé dans le texte. Alors, il a pu déchiffrer peu à peu comme ça, tandis que les déchiffreurs de l'écriture cunéiforme n'avaient rien. Il a fallu à peu près un demi-siècle pour venir à bout de ce diabolique système. Alors, on y a découvert donc les langues, et ça a donné le branle à un désir de savoir un peu ce qu'il y avait dans cette terre, comme ça, à des fouilles. À partir de 1840, à peu près, on a donc fouillé le pays. On y a trouvé non seulement des bâtiments, des statues, enfin tout ce que les archéologues peuvent trouver, mais des tablettes écrites. Ces gens-là écrivaient donc sur le système cunéiforme, et ils n'avaient pas de papier. Ils n'avaient pas de papyrus comme les Égyptiens, mais ils avaient de l'argile en abondance. Alors ils découpaient des plaquettes d'argile sur lesquelles ils imprimaient, avec un roseau taillé en biseau, ils imprimaient leur caractère aigu et hérissé, comme ça. Et le texte, n'est-ce pas, ils le disposaient en ligne, de telle façon que la tablette soit ou moitié remplie, ou remplie complètement par le texte qu'ils voulaient écrire. Lorsque le texte excédait le volume que pouvait contenir une tablette, il faisait comme nous faisons des volumes, tome 1, tome 2, tome 3, il faisait des tablettes successives, ce qu'on appelle des séries. Et le texte dont je vous parle maintenant avait été distribué en une série de 3 tablettes. Voilà, alors donc, ces tablettes que nous avons trouvées, on a trouvé pas mal de toutes sortes de textes, et notamment de rééditions, de republications sur des tablettes différentes, par des scribes différents, à des époques différentes, du texte du super-sage, qui a été diffusé comme ça. Comme au Moyen-Âge, on recopie un manuscrit et on le distribue, etc. Alors, ce super-sage, donc, on a commencé à en trouver des morceaux, mais on n'a pas bien compris de quoi il s'agissait. On n'a pas bien compris, c'est seulement il y a 30 ans, à peu près, qu'un de nos collègues a découvert au British Museum, qui est très très riche en tablettes, quelques tablettes et quelques fragments, les choses, c'est trop beau naturellement si c'était entier, qui représentaient la plus vieille copie connue du Super Sage. Alors ce texte-là est très probablement tout proche du moment où on l'a composé, ce texte. Ces fragments que l'on ne comprenait pas encore, on en a compris le sens quand on a eu entre les mains la copie la plus ancienne. Et c'est cette copie-là que je vais prendre pour vous lire le texte. Alors donc, il a dû être écrit, encore une fois, vers 1700, en gros. Les morceaux qui représentent la troisième tablette notent à la fin que le texte entier comportait 1245 lignes. Les scribes faisaient ce compte-là. Il nous en reste à peu près les 2/3, souvent d'ailleurs fragmentaires et pas tellement lumineux, mais suffisant par la matière et par la séquence, par la suite, suffisant pour que nous comprenions de quoi il s'agit et que je puisse donc vous le résumer.